Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'heure flamande préparée par Michel et Marie-Jou.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer une cité de Flandre qui se situe entre Tourcoing et Armentières. C'est une ville qui est aujourd'hui coupée en deux, selon les aléas de l'histoire. Il s'agit de la commune de Comines en néerlandais. Donc c'est une cité qui est située à cheval sur la Lys, donc tout près de Armentières et de entre Armentières et Tourcoing. C'est une ville frontière. Très tôt, le site fut habité dès la préhistoire, selon les archéologues, qu'ils ont trouvé des traces d'habitation, de vie, déjà sur le secteur, donc il y a bien longtemps. Et c'est pas très étonnant puisque, c'était un lieu de passage et un lieu stratégique aussi bien pour le commerce que pour le contrôle, bien sûr, de la zone. La ville, d'ailleurs, de Comines va connaître très rapidement une belle prospérité grâce à son industrie drapière. Les artisans sont plutôt aisés, ils gagnent bien de l'argent. Ils sont puissants et d'ailleurs le seigneur, dès 1276, leur accorde une charte qui permet bien sûr d'avoir beaucoup plus de liberté pour entreprendre, pour faire du commerce. Et les bourgeois, pour matérialiser cet accord, cette charte qui leur a été accordée, construisent leur premier beffroi. Qui est bien sûr le symbole des libertés envers le Seigneur. Mais attention, le beffroi, bien sûr, ne doit pas dépasser la tour de l'église, sinon ça ne va pas aller. Alors très tôt, donc, le secteur de Comines est évangélisé par un moine d'origine arménienne, Saint Chrysol, vers l'an 300. Il fonde d'ailleurs la première communauté chrétienne des Pays-Bas. Mais Saint Chrysol sera victime des persécutions et il va mourir en martyr.
Want waar
Dana Winner, vous interprétez Vers Vers de Rand, de nouveau aller plus loin. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Marie-Jo et Michel sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc la commune de Comines, Comines en néerlandais, donc qui se situe entre Tourcoing et Armentières. Donc, Comines très tôt a été donc occupée par l'homme, puisque les archéologues ont trouvé des traces de vie dès la période de la préhistoire. C'est une situation bien sûr stratégique que celle de Comines, puisque aussi bien pour le commerce que pour le contrôle du secteur, et bien en étant situé sur la Lys, et bien tout simplement ça favorise bien sûr les échanges et aussi la perception d'impôts pour le seigneur de l'époque. La ville, connaissant une certaine prospérité, évidemment, elle attire certaines convoitises et très tôt, elle se protège en dressant des fortifications. Mais cela n'interdira pas les Normands, les Vikings qui remontent naturellement les fleuves, de ravager au IXe siècle plusieurs fois donc la ville de Comines, qui néanmoins va toujours se reconstruire, se bâtir. Avec l'émergence du comté de Flandre, les seigneurs de Comines sont très proches du comte de Flandre, et d'ailleurs ils participent ainsi aux croisades, en particulier la troisième croisade. C'est une référence pour l'ensemble du secteur au niveau donc de la vie économique que celle de la ville de Comines. Elle fut d'ailleurs convoité, comme je le disais à l'instant, ravagé, pillé, mais le seigneur de l'époque ne baissera pas les bras, et c'est sous l'impulsion d'ailleurs du seigneur Collard de la Clite que la ville sera entièrement reconstruite en 1384. Si la ville elle est bien sûr traversée par le fleuve de la Lys, c'est plutôt la partie sud qui est habitée, puisque le nord de la ville est toujours un peu menacé par les risques d'inondation, et donc la population est un peu moins élevée de ce côté-là. Comines va connaître comme ses voisines de terribles ravages lors de la Première Guerre mondiale, en subissant particulièrement les bombardements des forces alliées qui veulent bien sûr chasser l'occupant allemand qui est arrivé sur la ville de Comines, et c'est ainsi que Comines sera détruite à plus de 90%. Une nouvelle fois, la ville sera reconstruite et les acteurs, en particulier l'architecte Cordonnier, aura à cœur de respecter l'architecture originale de la commune, en s'inspirant en particulier du mouvement néo-régionaliste qui avait lieu entre les deux guerres. Comines subira encore des dégâts lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais ceux-ci seront nettement moins importants que ceux de la Première.
Bang voor ontwaken. to Dun, the Barhead Fort, the Wacht op U. Om vroeg te sterven, voor ze werkelijk heeft geleefd. En is de nacht. Nog nooit hebben verhinderd dat de roos hen overleeft.
Christy, vous interprétez de Rose Lyrics. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie Jou sur Radio Plus.
Et donc aujourd'hui, nous évoquons la commune de Comines. Comines, donc, qui se situe entre Armentières et Tourcoing. Alors, Comines, connue donc une prospérité importante dès le Moyen-Âge, avec en particulier le travail de la draperie, mais aussi du commerce. C'est une ville qui, au XVe siècle, comptait pas moins de 500 foyers. En 1793, on relevait 4800 habitants à Comines. Aujourd'hui, on est à environ 13 000 habitants. Donc la ville de Comines, par sa richesse, évidemment, attirait les convoitises, comme on le disait à l'instant. Elle subit aussi les guerres de religion et en particulier les ravages effectués par les gueux en 1566. Mais à chaque fois, eh bien, la ville se reconstruit. Ensuite, eh bien, elle a subi les ravages avec les guerres d'annexion menée par Louis XIV. Et c'est ainsi que eh bien, la ville va passer pour partie au royaume de France avec le traité de Utrecht en 1713. Et donc la partie nord, c'est ici que la ville de Comines sera coupée en deux parties. Donc la partie nord au-dessus de la Lys va rester aux Pays-Bas autrichiens, tandis que la partie sud passe sous domination française. En 1719, eh bien, un entrepreneur de Ypres va mettre en place l'industrie du ruban. C'est Philippe Auvin de Ypres, donc, qui implante la rubannerie et qui va assurer d'ailleurs un redémarrage industriel important de Comines, et ceci jusque la veille de la Première Guerre mondiale. Les usines se multiplient, la population bien sûr augmente du même coup, avec énormément donc de gens qui viendront de Flandre du Nord, puisque la Flandre du Nord, eh bien, malheureusement à l'époque, elle était assez pauvre, mais surtout très rurale, avec de très nombreux enfants, donc qui n'arrivaient pas à trouver de quoi se nourrir, et donc il y a une immigration, un mouvement de population important, donc pour apporter leurs bras dans les industries, aussi bien d'ailleurs à Roubaix, Tourcoing et Comines en bénéficient également. Donc les deux, la ville donc coupée en deux, donc il y a Comines France et Comines Belgique, et c'est ainsi que donc eh bien ces deux villes vont connaître une histoire un petit peu différente qui va à la fois être ensemble et séparée, puisque si Comines Sud, eh bien la langue d'usage qui était jusqu'à présent le flamand, petit à petit va disparaître parce que le royaume de France a établi que seule la langue française était autorisée, tandis qu'au nord, eh bien il y aura toujours la tolérance du néerlandais, et même encore aujourd'hui la commune nord, eh bien est en zone de facilité linguistique, ce qui veut dire que évidemment, même si Comines dépend administrativement de la région du Hainaut, eh bien le néerlandais a toujours droit de citer, et donc il y a obligation bien sûr d'afficher tout en deux langues, le néerlandais et le français.
Cadril vous interprétait Louise. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Et vous pouvez aussi écouter bien sûr l'émission sur le site internet www.radioplus.fr. Donc aujourd'hui nous évoquons la ville de Comines. Alors Comines qui a été ravagée à plus de 90% pendant la Première Guerre mondiale, eh bien évidemment aura beaucoup de mal à retrouver son dynamisme industriel qu'elle connaissait avant cette Première Guerre mondiale. Les industriels auront un peu de mal à se réimplanter, mais une activité importante va être créée vers 1920. C'est la centrale thermique qui va cesser son activité en 1986. Donc, Comines, eh bien, comme je le disais à l'instant, avait été ravagée à plus de 90%. Il a fallu donc reconstruire. Et ici, eh bien, Comines va bénéficier de ce mouvement néo-régionaliste de l'époque, comme la ville d'ailleurs de Bayeul, avec la reconstruction de beaucoup de ces bâtiments en style donc néo-renaissance flamande. C'est ainsi que nous allons pouvoir remarquer, par exemple, en premier lieu, eh bien, c'est bien sûr le beffroi. Le beffroi avec sa tour et son dôme bulbeux, hein, qui reprend en fait eh bien, le beffroi tel qu'il était en 1625. Donc c'était vraiment un respect de l'architecture d'origine de la ville de Comines et pour le plus grand bonheur bien sûr des touristes puisque cette ville a gardé donc ce caractère typiquement flamand. L'hôtel de ville est reconstruit lui aussi dans le style de la Renaissance flamande. C'est un bâtiment particulièrement imposant par sa taille. Il est en briques jaunes surmonté d'un clocheton. Il est donc accolé au fameux beffroi. Beffroi donc particulièrement remarquable. Vous pouvez aussi remarquer que de nombreuses maisons sont construites de briques rouges et de pierres de tournée, une pierre de couleur grise. C'est le choix d'ailleurs du conseil municipal de l'époque qui, juste après la Première Guerre mondiale, a souhaité donc reconstruire la ville dans ce style typique de Renaissance flamande. Et les habitants étaient invités fermement à respecter ce style afin bien sûr d'avoir un ensemble architectural le plus harmonieux possible. Les façades d'ailleurs s'inspirent directement des façades de Gand et de Bruges. Comines est particulièrement reconnue donc comme étant la capitale de la rubannerie, une rubannerie donc qui a été reconstruite en 1920 et qui a appartenu à Désiré Ducarin qui fut maire de Comines de 1904 à 1918. Ce fut un maire particulièrement soucieux de la santé de ses concitoyens. C'est un maire constructeur, un bâtisseur, et Comines était une ville, je vous le rappelle, industrielle. Et c'est ainsi qu'il a fait bâtir des bains-douches, qui ont été construits en 1906, détruits malheureusement durant la guerre de la Première Guerre mondiale, donc en 1918. Il a été entièrement reconstruit tel qu'il l'était avant la guerre. Il est à relever d'ailleurs la grande verrière. Avant 1914, eh bien, la cité comptait pas moins de 240 cabarets, qui étaient bien sûr des lieux de rencontre, d'échange. Il n'y avait pas la télévision à l'époque. Et donc souvent, ces cabarets servaient aussi de sièges d'associations sportives, de loisirs, comme des clubs aussi, les coulonneux. Donc c'était vraiment des endroits de convivialité, d'échange et de... et bien sûr de vie sociale importante.
Het is al bijna november en mijn gedachten zijn oud, want nu de herfst is gekomen lijkt dit huis soms te koud om nog een droom te bewaren van het kind dat hier was. De bomen verliezen hun blaren, maar geven kleur aan het gras. De bomen verliezen hun blaren, maar geven kleur aan het gras. Eenmaal leken de dagen duurzaam als zilver of goud, maar alle kleuren vervagen. De tijd maakt het mooiste ook oud. Als je geluk wil bewaren, luister dan goed hoe het was. De bomen verliezen hun blaren, maar geef een kleur aan het gras. De bomen verliezen hun blaren, maar geef een kleur aan het gras. Want soms nog stil aan de ramen, praat toch nog zachtjes de wind. Geeft je de dagen die kwamen, brengt je terug naar het kind. Dat je voorgoed mag bewaren, zoals het vroeger eens was. De bomen verliezen hun blaren, maar geef een kleur aan het gras. De bomen verliezen hun blaren, maar geef een kleur aan het gras. Herfst geeft vaak mooiere kleuren dan ooit dat zilver of goud. Laat nieuwe dingen gebeuren, waar je dan ook weer van houdt. Niet meer zo fel als die jaren, toen je niet wist wie je was. De bomen verliezen hun blaren, maar geef een kleur aan het gras. De bomen verliezen hun blaren, maar geef een kleur aan het gras.
Mille Cols, vous interprétez November. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et donc aujourd'hui, nous évoquons donc la ville de Comines. Alors la ville de Comines, donc, qui a été reconstruite après les ravages dus à la Première Guerre mondiale dans un style typique Renaissance flamande, eh bien il y a un bâtiment majeur qui, lui, ne va pas respecter cet esprit. C'est l'église Saint-Chrysol. Donc Saint-Chrysol, qui était donc le premier évangélisateur du secteur, donc qui est mort en martyr au IIIe siècle. L'église précédente était de type Alkerk, hein, des églises typiques de Flandre. Mais celle-ci, cette église qui a été donc reconstruite en 1919, eh bien, a une architecture totalement différente, néo-byzantine. C'est le maire de l'époque, hein, Victor Cousin, qui a fait appel à un architecte, Maurice Storez, qui met l'architecture, donc le but, il se fait aider d'ailleurs par un architecte qui est moine, et donc le but de cette reconstruction d'église, c'est de dire, eh bien, je mets l'art au service de Dieu, et dont la raison pour laquelle la nef est particulièrement imposante, elle est sobre. C'est une volonté de dépouillement, de façon à ce que, évidemment, les pratiquants ne soient pas détournés par les décors de l'église. Et donc, il y a une grande sobriété, voire une certaine austérité de ce bâtiment, donc de style néo-byzantin. C'est un bâtiment qui a été construit essentiellement à partir de fer et de béton, le béton qui est qui avait un peu la vedette à l'époque, et donc qui a utilisé aussi pour la construction d'ailleurs du campanile donc qui lui eh bien renferme trois cloches, dont la cloche dite cloche des morts, en souvenir bien sûr des Cominois qui ont été tués lors de la Première Guerre mondiale. Dans cette église, on peut aussi remarquer particulièrement un décor à partir de mosaïques, donc une grande sobriété. Cette église, elle a été reconstruite sur plusieurs années, puisque elle a commencé à être construite en 1925 pour s'achever peu de temps avant la Deuxième Guerre mondiale. On y a trouvé, en reconstruisant aussi, a fait apparaître des fragments de monuments, dont le tombeau du seigneur Jean II de la Clite, donc seigneur de Comines, et qui a été aussi gouverneur de Nieuport. Donc on a trouvé donc le gisant de ce prince. Comines, eh bien, c'est aussi une cité où on aime la fête. Et je ne peux pas ne pas évoquer, bien sûr, une fête qui est particulièrement importante avec Comines Nord, c'est les fameux marmousets, dont on va vous donner ici une lecture de texte.
Le troisième samedi de juillet, les rues de Comines sont envahies par la foule, venue voir un cortège festif, un carnaval d'été. C'est la fête des marmousets. L'histoire des marmousets est liée à la Sainte-Anne et à l'industrie textile forte et prospère à Comines dans les années 1900. Comines avait d'ailleurs été nommée capitale mondiale du ruban. On nous trouve d'ailleurs, encore aujourd'hui, un musée de la rubannerie. À la base, le terme de marmouset désigne une pièce d'un métier à tisser, avant d'être utilisé par les ouvriers du textile pour nommer les jeunes ouvriers espiègles. Les marmousets sont vêtus d'un tablier bleu, d'une casquette noire et d'un foulard rouge. Ils ont des géants à leur effigie. Il ne faut pas confondre cette fête des marmousets avec la fête de la ville voisine, Warneton, la fête des Munch, petits moines, qui a lieu à la Saint-Nicolas.
Donc une fête traditionnelle de Comines, mais cette fois de Comines dite Comines Nord ou Comines Belgique. Une autre fête bien sûr importante, c'est la fête des Louches, qui se termine donc par le jet du balcon de l'hôtel de ville de Louches en bois. Et nous en allons parler plus longuement après cette page musicale.
Ze hebben me mijn zachte G al vaak verweten, sinds ik hier in het noorden ben beland. Ik heb hier heel wat builen slechte friet gevreten. Ze hebben me gezegd, je moet het maar vergeten, die passie voor het blonde Vlaamse land. Maar aan de weg naar Scherpenheuvel, tussen Geel en Kasterlee, staat een huis met groene luiken aan een kleurige allee. Je ziet het oeuvre van gezellen en de werken van Terlink door het raam. En op een bordje naast twee goed gepoetste bellen, daar staat zijn naam, de naam van Sjefke. Sjefke. Sjefke, Sjefke. Och, pastels kun je ook in Amsterdam wel kopen, een glas Stella in een duur café. Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen, daar was een staminee, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons twee. Aan de oevers van de Neete, tussen Herentals en Lier, ben ik Nederland vergeten, bij de frieten en het bier. En daar lag ik met Sjefke in het koren. Zei ik dingen waarvoor ik me nu schaam. En ik schreeuwde, heel de wereld moest het horen. Zijn naam, de naam van Sjefke. Sjefke, Sjefke, Sjefke. Ik ben terug in Amsterdam, want er is herfst gekomen. En de wind blies door de muren in ons hart. Hij heeft de warmte van de zomer met zich meegenomen. En daar woeien in de verte al mijn zomerdromen. Om ons heen werd de wereld kaal en zwart. Op het busstation van Hasselt stond ik eenzaam in de kou. Op het leeg perron in Brussel stond ik, Sjefke, zonder jou. Maar nu ik terug ben in het noorden, kijk ik dikwijls verdrietig uit mijn raam. Want dan hoor ik weer die lieve Vlaamse woorden en weer die naam, de naam van Sjefke. Sjefke, Sjefke, Sjefke.
Della Bozers, vous interprétez Sjefke. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Aujourd'hui, nous évoquons Comines, et quand on parle de Comines, évidemment, on parle de cette célèbre fête, la fête des Louches, qui se termine donc par ce jet du balcon de l'hôtel de ville de Louches de Bois, qui sont censés, bien sûr, porter bonheur. Ils font référence à une légende selon laquelle le seigneur donc est emprisonné dans son propre château par un usurpateur. Et pour signaler bien sûr son triste sort, eh bien il trouve une astuce pour avertir ses sujets. C'est de jeter par les fenêtres, fermées bien sûr par des barreaux, eh bien sa vaisselle de bois qui porte ses armes. Et attiré évidemment par ce jet de vaisselle en bois, la population s'aperçoit que son seigneur est prisonnier. Et donc, la population les montre. Et bien, ce seigneur va, manifester et ainsi pouvoir restituer au seigneur emprisonné non seulement sa liberté, mais aussi son trône et chasser l'usurpateur. Alors, évidemment, c'est une légende. Maintenant, certains historiens avancent une autre version, c'est sans doute l'emprisonnement du seigneur Jean de la Clite après la bataille d'Azincourt. Les habitants de Comines sont appelés à payer une rançon qui est particulièrement élevée et donc pour réussir donc à libérer leur prince. Et en retour de Comines, eh bien ce prince, en remerciement, va établir en 1456 la Franche Foire, donc une foire où les taxes sont libérées. Ça nous ferait bien plaisir actuellement. Comines donc fête les Louches depuis 1884. Elle se déroule sous forme d'une procession de chars avec un thème différent chaque année. Et on peut ainsi aussi découvrir les fameux géants de Comines qui aujourd'hui sont au nombre de 4, mais au départ ils étaient 2. Il y avait deux géants au départ qui datent de 1884. C'était la Grande Gueloute, ainsi nommée car c'était une tisseuse réputée pour son parler haut et fort. Et elle est accompagnée par un deuxième géant, Petite Chorchir, qui représente le rubanier, donc l'activité principale de la ville de Comines. Un troisième géant est né en 1984, c'est Bouchard de Comines, en l'honneur bien sûr du seigneur de Comines qui s'était particulièrement illustré lors des croisades en délivrant Jérusalem. Enfin, un quatrième géant est né en 2016. C'est une géante pour l'occasion, donc une géante nommée Alice de Comines, qui rend hommage, bien sûr, aux drapières qui, depuis le XIIIe siècle, avaient permis la prospérité de la cité de Comines.
Meisjes met een sexy badpak, jongens met een stoere blik. Het is vakantie, ja je kent dat, en 's avonds naar de discotheek.
Summers, vous interprétez les rêves de plages lointaines, un petit clin d'œil aux vacances et au soleil que nous n'avons pas ces jours-ci. Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'Heure Flamande.
Vous pouvez bien sûr écouter sur le site de la radio www.radioplus.fr. Et donc nous évoquons aujourd'hui Comines, donc située donc entre Tourcoing et Armentières. Comines, eh bien, c'est faire la fête, on vient de le voir, mais Comines compte aussi de très nombreuses personnalités de renom. On a parlé au début de l'émission, bien sûr, de Saint Chrysole qui est mort en 303 et qui donc avait évangélisé le secteur. D'ailleurs, c'est après Saint Éloi qui, lui, vers l'an 656, a retrouvé ses reliques et on a mis le culte à l'honneur donc de Saint Chrysole, donc saint patron de l'église de Comines. Donc il y a ce saint, bien sûr, particulièrement important, mais il y a d'autres personnages particulièrement de renom. Je pense en particulier, je ne pourrais pas tous les citer malheureusement, mais il y a par exemple fameux Philippe de Comines, donc qui est né en 1445 et décédé en 1511. Philippe de Comines, il n'est pas né à Comines même, puisqu'il est né à Renescure, une commune dans la banlieue de Saint-Omer, mais il a vécu une grande partie de sa vie à Comines chez son oncle Jean Ier, donc seigneur de Comines, puisque le jeune Philippe de Comines, malheureusement, a été orphelin très tôt, dès l'âge de 7 ans, et il a ainsi passé l'essentiel de sa jeunesse auprès de son oncle. Alors Philippe de Comines, il est particulièrement célèbre pour ses chroniques et aussi pour ses mémoires historiques. C'est un personnage qui est particulièrement connu dans toute l'Europe grâce justement à ses écrits. Il a servi le duc de Bourgogne et en particulier Charles le Téméraire. Il sera aussi conseiller de Louis XI. Donc c'est un personnage particulièrement important donc pour la vie de Comines, dont il porte fièrement le nom. Un autre personnage, lui aussi important, c'est Charles de Croix, qui hérite de la seigneurie de Comines par sa mère en 1581. Il va décéder en 1612. Et ce puissant prince, qui est d'ailleurs seigneur et chevalier de la Toison d'Or, hein, c'est quand même un ordre particulièrement prestigieux à l'époque, eh bien, va laisser en héritage une collection magnifique de gouaches qui représente plusieurs milliers de villes et de villages de Flandre en particulier et d'Artois. Et aussi des villes plus au nord de Flandre et voire des Pays-Bas qu'il a fait réaliser donc au début du XVIIe siècle par toute une équipe dirigée par Adrien de Montigny. C'est une collection qui est particulièrement précieuse, d'autant que malheureusement nombreux monuments qui ont été ainsi croqués ont disparu par les effets de la Révolution française et aussi malheureusement pendant la Première Guerre mondiale, comme on l'a dit tout à l'heure. Un autre personnage qui lui aussi prestigieux et on a tendance un petit peu à l'oublier, c'est Ogier de Busbecq qui est lui à Comines en 1522. Alors il est particulièrement c'est un ambassadeur donc qui travaille avec Charles Quint avec la couronne d'Espagne. Et il est en particulier diplomate auprès de la cour de Soliman le Magnifique l'Empire ottoman. Il va d'ailleurs de cet empire ramener en Europe la fleur célèbre, la tulipe qui fait aujourd'hui le bonheur des Pays-Bas. Et aussi une autre plante en particulier, c'est le lilas, donc qui était totalement inconnu à l'époque. Et donc Ogier de Busbecq décédera en 1592. Donc trois personnages particulièrement importants parmi les nombreux seigneurs qui ont fait la prospérité de la commune de Comines. L'émission ici touche déjà à sa fin, donc je ne peux que vous inviter à découvrir cette commune donc qui est aujourd'hui coupée en deux parties, Comines Nord et Comines France, Comines Belgique comme on dit, donc qui ont vécu un moment un petit peu séparé, qui ont chacune une personnalité certes, mais qui ont une longue histoire commune. Et naturellement, ces deux villes, ont de relations très étroites pour les bonnes manifestations et le plaisir des habitants. Nous vous souhaitons donc une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus 104.3. Bonne semaine à vous.
Hij volgt nog altijd zijn dromen, tot op de dag van vandaag. Sommigen zijn uitgekomen, anderen bleven wat vaag.
hier in de schaduw van de maan. Denkt hij daar al te dikwijls aan? Denkt hij vaak aan zijn leven, dingen die hij heeft gedaan? Leven is nemen en geven, leven is komen en gaan. Hier in de schaduw van de maan, denkt hij daar al te dikwijls aan? Hij laat zijn geest de vrije loop en droomt van liefde en van hoop. Zonder kan geen enkele mens bestaan. Niemand is gemaakt om alleen te gaan, alleen. Zijn en wenen, liefde, een lach en een traan. Vrienden die weer verdwenen, gezichten die komen en gaan. Hier in de schaduw van de maan, denk jij daar altijd dikwijls aan?